de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par les journaux. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. La guerre entre la Russie et l'Ukraine s'intensifie. L'entrepôt de pétrole de Kiev est en feu. Une réunion impromptue du Conseil de sécurité de l'ONU discute des accusations de la Russie concernant les armes biologiques de l'Ukraine. Le gouvernement s'assure que l'économie continue de croître dans la période de transition énergétique. PT Inka implique des étudiants produisant des bus électriques rouges et blancs pour accueillir le G20. Jérémy nous présente maintenant le journal complet. La bataille entre les troupes russes et ukrainiennes à la périphérie de la capitale Kiev se serait intensifiée vendredi. L'image satellite de Maxar Technology montrant les banlieues nord-ouest et nord de Kiev, y compris la ville de Tchernihiv, aurait subi d'importants dommages dus à les combats entre les deux pays. L'image satellite prise jeudi montre des réservoirs de stockage de carburant à la base aérienne Antonov en feu. La base est sous contrôle militaire russe et une épaisse fumée noire peut être vue s'élevant des pétroliers situés à l'extrémité sud de la base Antonov. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu une réunion impromptue vendredi 11 mars, heure locale, au milieu de l'invasion militaire russe à l'Ukraine. La réunion a discuté des accusations de la Russie sur le développement d'armes biologiques en Ukraine. Rapportée par AFP vendredi, cette réunion d'urgence a été proposée par la Russie jeudi, heure locale, qui a accusé les États-Unis de financer la recherche pour le développement d'armes biologiques en Ukraine. La Russie est connue pour avoir lancé une invasion de l'Ukraine depuis 24 février. L'Amérique et l'Ukraine ont nié les accusations de la Russie en niant l'existence de laboratoires que la Russie accuse d'être utilisés pour produire des armes biologiques en Ukraine. Le gouvernement indonésien, par le ministère de l'Énergie et des Ressources minérales, assure que l'économie nationale continue de croître bien que le pays soit face à un programme de transition énergétique des fossiles aux énergies renouvelables. Le directeur général de la nouvelle énergie renouvelable et de conservation de l'énergie du ministère de l'Énergie et des Ressources minérales, Dadan Kusdiana, dans le dialogue transition énergétique réalisant l'économie verte du canal IDX à Jakarta, a déclaré vendredi que cela garantirait que les processus de la période de transition énergétique ne pas fournir d'impact socio-économique. Il s'assure que la fourniture d'énergie publique soit toujours garantie, la communauté peut toujours acheter de l'électricité acheter du carburant en fonction de ses capacités et en même temps l'Indonésie peut assurer des efforts pour réduire le gaz à effet de serre, notamment dans le secteur de l'énergie. Au cours de la période de transition énergétique, l'Indonésie utilisera diverses ressources disponibles progressivement et accélérées dans le processus impliquant divers types de parties prenantes. PT Industrie Kereta Api ou INKA implique des étudiants de diverses universités pour produire des bus électriques rouges et blancs qui seront utilisés lors de la réunion du G20 à Bali en novembre 2022. Le directeur de PT INKA, Budi Noviantoro, après avoir accepté des étudiants stagiaires pour le programme Campus Merdeka dans le bâtiment du centre de formation INKA dans le village de Kuiran, le district de Kare, la régence de Madiun, Java Oriental, a déclaré vendredi que les étudiants impliqués étaient des étudiants qui avaient réussi la sélection à Jakarta pour le programme de stage Campus Merdeka. Il y avait 100 étudiants de différentes universités publiques et privées sélectionnés. Selon lui, l'implication de ces étudiants et la réalisation de la collaboration de INKA avec la Direction générale de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie, du ministère de l'Éducation, de la Culture et des Recherches, et aussi technologie, concernant le développement de véhicules électriques dans le milieu de l'enseignement supérieur. Le ministre du Commerce, Muhammad Lutfi, a déclaré que l'économie indonésienne devait croître de 6,4% par an pour devenir un pays développé en 2045 et sortir du piège du revenu intermédiaire. Cela signifie qu'en 2045, le produit intérieur brut par habitant de l'Indonésie est d'environ $29,000 américains et que l'Indonésie deviendra la quatrième plus grande économie du monde et sortira du piège du revenu intermédiaire en 2034. Cela a été déclaré par le ministre Lutfi dans le webinaire « Donner aux PME les moyens de se redresser plus fort » suivi à Jakarta vendredi. Pour cette raison, selon le ministre Lutfi, la contribution des investissements au produit intérieur brut doit être augmentée de 33% jusqu'à 39% en 2045, avec une croissance de 7,3% par an. L'industrie manufacturière doit également contribuer au PIB jusqu'à 32% par an avec une croissance moyenne de 7,8% par an. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie. Les premières nouvelles sont venues de Padang, Sumatra Ouest. Le comité du Festival culinaire de l'Ouest de Sumatra 2022, en collaboration avec PT Pos Indonesia, a envoyé un paquet de rendang au président Joko Widodo et ministre des Entreprises Publiques et aussi le ministre du Tourisme lors du lancement du festival à Padang mercredi dernier. Le lancement du Festival culinaire de l'Ouest de Sumatra 2022 a été marqué par le battement simultané du tambour Tassa par le chef du service culturel provincial de l'Ouest de Sumatra, Saifullah. Président du comité d'organisation du Festival culinaire de l'Ouest de Sumatra, Wudi Hamdani, le vice-président de PT Pos Indonesia Regional en Sumatra, Dino Haryadi, et le leader d'Imigran Minang, Asril Encik, et le représentant de la communauté. Le président du comité d'organisation du festival, Wudi Hamdani, a déclaré que la cuisine était l'un des avantages de l'Ouest de Sumatra. Il y a 4 produits culinaires qui sont contestés dans le festival, à savoir les épices à rendang, le lompong sagu, le riz gluang sari kayu et les types de balado. Le jury procédera à une évaluation du 19 au 25 mars. Les nouvelles suivantes sont venues de Lampung. Le port de Bakahoni à Lampung n'existe pas de test antigène ou de test PCR comme condition de voyage pour les utilisateurs du transport maritime. Le directeur général de PT Transport Fluvial, Lacustre et de traversée de Bakahoni, Solikin, contacté par Antara à Bandar Lampung mercredi, a déclaré que la politique était conforme à la circulaire du ministre des Transports concernant des instructions de voyage pour les personnes nationales par transport terrestre pendant COVID-19. Il a également déclaré que la politique dans le secteur des transports devrait contribuer à la reprise du secteur du transport maritime. Les dernières nouvelles sont venues de Surabaya, Java Oriental. Le gouvernement de la ville de Surabaya, dans la province de Java Oriental, fournit 1160 quotas de bourse aux étudiants qui mémorisent le livre sacré pour les niveaux maternels, élémentaires et collèges de la ville. Le chef du bureau de l'éducation de la ville de Surabaya, Yusuf Masrouf, a déclaré jeudi qu'il y avait actuellement 1792 étudiants à Surabaya qui se sont inscrits pour participer à la réception de sélection de bourse pour les étudiants en mémorisation de livre saint. Il a dit que la bourse pour mémoriser le livre saint devrait créer une génération dorée qui aime et pratique le livre saint dans sa vie quotidienne. La sélection des boursiers pour les étudiants en mémorisation de livre saint a été ouverte par le maire de Surabaya, Eri Cahyadi, à Graha Bunda Paut mercredi 9 mars 2022. La sélection a réuni des représentants de chaque région, à savoir l'islam, chrétien, catholique, hindou, bouddhiste et confucien. Chers amis, c'était la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie. chers amis des quatre coins du monde, merci d'être fidèles à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire aujourd'hui, le 12 mars. Le 12 mars 1925, la mort de Sun Yat-sen. Dr. Sun Yat-sen était un leader clé de la révolution chinoise. On a largement reconnu comme le père de la Chine moderne, en Chine continentale ou à Taïwan. Il est né le 12 novembre 1866. À cette époque, la Chine était dirigée par un empereur qui régnait comme s'il était un dieu. Sun Yat-sen, convaincu qu'on devait organiser la Chine de nouvelle manière à travers la révolution. En tout, il a dirigé 11 révolutions contre la dynastie Qing et a finalement réussi à renverser l'Empire. Par la suite, la Chine est devenue la République de Chine en 1911. Sun Yat-sen est également le fondateur du plus ancien parti de l'histoire chinoise moderne, le Kuomintang. Il était président en 1912, 1923 et 1925. En 1923 jusqu'en 1924, il avait formé une alliance avec le Parti communiste chinois. À la fin de sa vie, il s'est toujours battu pour l'unité chinoise et persuadé diverses personnalités de factions d'abandonner leurs ambitions personnelles. Le 12 mars 1967, l'Assemblée consultative populaire provisoire ou MPRS nomme le général Suharto président par intérim. Du 7 au 12 mars 1967, l'Assemblée consultative populaire provisoire a tenu une session extraordinaire pour examiner les performances du président Sukarno et prendre une décision finale sur sa participation ou non à la rébellion du Parti communiste indonésien en septembre 1965. La session extraordinaire a été ouverte le 7 mars 1967. Ce jour-là, le lieutenant-général Suharto a prononcé un discours qui a libéré Sukarno de toute implication dans la rébellion. Le 10 mars 1967, MPRS a accepté de retirer son mandat de Sukarno et de nommer Suharto au poste d'officiel président temporaire de la République d'Indonésie. Le 10 mars 2003, le premier ministre serbe Zoran Dinkić a été tué à Belgrade. Zoran Dinkić est devenu premier ministre de la Serbie de 2001 jusqu'à 2003. Le 10 mars 2003, il a été tué à Belgrade. Le meurtre était lié aux tensions entre la Serbie et d'autres États yougoslaves et aux politiques gouvernementales, ce que nous considérons comme très pro-occidental. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kong zhao. 以防止新型冠状病毒肺炎的传播，我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragen van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa menjadi satu tanda tanya apa yang sedang terjadi kini.
Berbeda di antara kita mungkin ada. cinta.
Kata-katakan ini benar nyata.
C'était la première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sous la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Mon Indonésie, intitulée La réunion du B20 invite les entreprises mondiales à publier des recommandations pour le G20. Le forum d'affaires 20 ou B20 est fait partie de l'événement G20, la réunion du groupe de travail sur l'énergie, le développement durable et le climat Business 20 ou ESG B20. Invite les entreprises mondiales à participer à la création de politiques qui seront suivies lors de la présidence indonésienne du G20. Oki Muraza, le responsable du groupe de travail sur les politiques de ESG B20, dans une déclaration citée à Jakarta jeudi, a déclaré que le B20 continue d'encourager la création de politiques visant à supprimer le changement climatique, à utiliser des énergies propres et réduire les émissions de carbone. Lors de la réunion qui s'est tenue mardi 8 mars, 3 recommandations politiques et 14 recommandations d'action ont été à nouveau discutées, qui seront suivies d'une discussion et des commentaires de tous les coprésidents présents. Oki Muraza, qui est également vice-président principal de la recherche, de la technologie et de l'innovation de PT Pertamina, a déclaré que les 3 recommandations politiques résultant de la réunion du B20 visaient à accroître la coopération mondiale pour accélérer la transition vers une utilisation de l'énergie durable en réduisant l'intensité carbone de l'utilisation de l'énergie par divers canaux. D'autres recommandations renforcent la coopération mondiale pour assurer une transition juste, ordonnée et abordable vers une utilisation durable de l'énergie dans les pays développés et en développement. Alors que la troisième recommandation est d'accroître la coopération mondiale pour améliorer la sécurité énergétique au niveau des consommateurs en augmentant l'accès et la capacité à consommer une énergie propre et moderne. Le groupe de travail sur l'énergie, le développement durable et le climat Business 20 détermine des actions nécessaires pour permettre aux pays du B20 et du G20 de mettre en œuvre les recommandations politiques. Oki Muraza a également déclaré que les recommandations peuvent être utilisées comme contribution pour des actions politiques cohérentes les unes avec les autres. Il estime que les recommandations actuelles peuvent représenter l'intention du groupe de travail de recommander des politiques pertinentes dans d'autres domaines qui traitent de la question de la durabilité énergétique et du changement climatique. En plus des 3 recommandations politiques, Oki a également indiqué qu'il y avait 14 recommandations d'action comme forme d'action sur ces recommandations politiques. Entre autres, l'augmentation du taux d'amélioration de l'efficacité énergétique dans l'économie, la réduction progressive des émissions de centrales électriques au charbon, accélérer le développement des centrales électriques à base d'énergie renouvelable et développer des carburants alternatifs pour les filières difficiles à réduire et décarboner, les générateurs au gaz. Assurer la participation des micro, petites et moyennes entreprises aux activités de transition énergétique par le financement et le renforcement des capacités, également l'une des recommandations d'action issues des réunions du groupe de travail sur l'énergie, le développement durable et le climat Business 20. Pendant ce temps, le vice-président du groupe de travail ESG B20, Agung Wicaksono, a déclaré que toutes les recommandations actuelles pouvaient encore être ajustées et pouvaient continuer à se développer en fonction des besoins, conformément au processus du groupe de travail ESG B20. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
De Jakarta, voici la Voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers amis de quatre coins du monde, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici magazine culturel. Et cette fois, nous allons présenter Curug Dengdeng, à Tasikmalaya, Java Occidental. Uh, Alang tarya dang amo a plecaringin lumilos de Cikawong Gading su distrik de Cipatujuh Tasikmalaya dala province de Java West ilia ang milyong de Shar antrotre curug dengdeng ula kaskat de dengdeng asetang drua liwayajak per profite du zehi semong de trois plans du asevas avec de Bellevue sur les rizières typiques de la campagne. En fait, de nombreux visiteurs l'appelaient le petit Niagara à Tasik du Sud. La forme de la cascade a une conception naturelle à plusieurs niveaux, comme une sculpture avec la même hauteur des deux côtés. La cascade d'une superficie d'environ 1 hectare l'a fait connaître comme la plus grande cascade de la région de Java occidentale. Cette cascade peut être considérée comme très unique, à trois niveaux avec des hauteurs différentes. Le premier niveau a une hauteur de 13 mètres, le deuxième niveau a une hauteur de 11 mètres, tandis que le troisième niveau de 9 mètres. En tant qu'attraction touristique non commerciale, cette cascade peut être visitée à tout moment, mais il est recommandé de venir quand le jour est encore clair et pendant la saison sèche. Si vous voulez mieux nager, venez avant 2 heures. Pour aller à la cascade de Dengdeng, qui est d'environ 62 km de la ville de Tasikmalaya, il faut se préparer un peu l'énergie parce que toutes les routes ne sont pas bonnes. Après l'arrivée au village Cikawong Gading, pour ne pas vous perdre, vous pouvez demander à l'aide communauté. Chers amis, c'était Magazine Culturel de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chaku yo shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbreiding van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Pada diri sendiri tentang kita. Benar kau ada di hatiku? Benarkah ku ada di hatimu? Mengapa kini tak terlihat ada kau di sini di dalam hatiku?
Baru ku sadari kau telah menjauh. Tiada yang salah, hanya saja terasa ku berubah. Tak lagi seperti saat kau di sini, semua terasa sangat indah. Mengapa kini tak seindah dulu saat kau masih ada di hatiku?
Baru ku sadari kau telah menjauh.
Of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, on va la rubrique l'Indonésie en couleur. Et cette fois, nous allons vous présenter le ministère du Tourisme et de l'Économie créative présente Food Startup Indonesia pour soutenir le développement des MPME culinaires. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative présente Food Startup Indonesia ou FSI 2022, qui est un programme de développement commercial pour le secteur culinaire, notamment pour les acteurs de micro, petites et moyennes entreprises, afin d'augmenter la capacité et d'élargir l'accès au financement. FSI 2022 connectera les entrepreneurs en démarrage dans le domaine culinaire avec un écosystème intégré. Cet écosystème fait référence à un réseau d'économie créative culinaire, à savoir le gouvernement, les mentors d'affaires, les capitaux, les fournisseurs, les investisseurs et le marketing, de sorte qu'ils devraient soutenir la relance de l'économie en ouvrant davantage d'opportunités d'emploi. Selon le directeur de l'accès au financement du ministère du Tourisme et de l'économie créative, Hanifah Makarim, Food Startup Indonesia 2022 est organisé par le ministère du Tourisme et de l'économie créative en collaboration avec Ultra. Le Food Startup Indonesia sélectionnera des acteurs de l'économie créative culinaire et ouvrira des opportunités d'obtenir des financements ou des capitaux avec des systèmes de prêt conventionnels, sharia, partage des profits et partage des actions. Lors du lancement de Food Startup Indonesia 2022, le mercredi 2 mars dernier, la députée pour l'industrie et l'investissement du ministère du Tourisme et de l'économie créative, Fajar Hutomo, a déclaré que Food Startup Indonesia 2022 porte le thème Planet, People et Profit, qui sont trois choses importantes qui doivent être prises en compte, en particulier pour soutenir la présence d'objectifs de développement durable. FSI 2022 cherche une entreprise culinaire qui inspire et prospère avec une orientation équilibrée entre durabilité, l'impact social et rentabilité. Fajar Hutomo a ajouté que le secteur culinaire, l'un des trois plus grands sous-secteurs de l'économie créative, est un secteur inclusif. Cela signifie que le secteur culinaire est ouvert à tous ceux qui veulent vraiment ou sont intéressés à entrer dans l'industrie ou les affaires culinaires. Pendant ce temps, en termes de personnes et de planète, les acteurs économiques doivent toujours prêter attention à la sagesse locale et aux ressources locales. Il en va de même pour la relation entre le profit et la planète. Et les acteurs du business culinaire en production doivent pouvoir être attentifs à une production durable. Le point culminant de l'événement FSI 2022 se tiendra parallèlement à la conférence mondiale de AFPN 2022 qui fait partie de la présidence indonésienne du G20. Le réseau asiatique de philanthropie de RIS, ou AFPN, est un regroupement de philanthropes concernés par les questions de durabilité, comme par exemple réduire la pauvreté, l'égalité des genres, le handicap, puis créer l'environnement ou faire en sorte que cet environnement nous convienne ainsi qu'aux générations futures. Après son lancement, le FSI contiendra une série d'événements d'inscription, de sélection et de jugement. Les participants sélectionnés recevront des sessions de mentorat, un jumelage d'entreprise et l'événement culminant sera démodé. Lors de cet événement, il y aura des activités de présentation de produits, de mentorat et un prix final en juin 2022. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Hidup ini indah, hidup ini pantas diperjuangkan. Banyak pilihan, berani untuk mencoba, jatuh dan bangun. Kita ciptakan sempurna bila kita berani gila, pasti semua. Dunia takkan mampu.
Dengan dunia takkan mampu buatku mundur sedikit pun. Laju semangatmu, kita kalahkan dunia yang hilang.
Lakukan kerintangan yang ada di depan. Janganlah kita takut atau menyerah. Pasang jiwa dan raga buat hal yang benar. Ini saatnya kita buka mata yang inat.
Voilà la dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, toujours avec nous à la voix de l'Indonésie au monde. Dans cette édition, nous vous présentons une chanson de Kroncong intitulée Mahameru, chantée par Hartika Ningsih. Le mont Mahameru ou le mont Semeru est la troisième plus haute montagne d'Indonésie après le mont Kerinci et Rinjani. Le mont Semeru est la plus haute montagne de l'île de Java, battant le mont Merapi, Merbabu et Lawu. Le mont Semeru est situé à la région de Madiun et la région de Lumajang. La chanson de Kroncong intitulée Mahameru, créée par Sam Sidi, raconte que quel magnifique le mont Mahameru avec sa beauté naturelle qui l'entoure, fendant le ciel bleu, s'élevant dans le ciel. On est fier de l'Indonésie qui a beaucoup de belles montagnes. C'est un don incommensurable offert par Dieu Tout-Puissant à son peuple. On doit garder et préserver la nature du mont Semeru Mahameru. Bon, chers auditeurs, voici Hartika Ningsih avec la chanson dont le titre est Mahameru. Bonne écoute! Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en française pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.